Dernières infos avec vous, Florence Paracuelos.
Et ce chiffre, Emmanuel Macron élu ce soir, 8e président de la 5e République avec 65,8% des voix. Marine Le Pen n'en recueille que 34,2%. L'abstention est forte, 25,3%, ainsi que les votes blancs et nuls. 4,2 millions de votes blancs et nuls, c'est-à-dire qu'entre l'abstention et ces votes-là, plus d'un Français sur trois a refusé de choisir aujourd'hui entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Je vous donne quelques premiers résultats définitifs. Un plébiscite pour Emmanuel Macron au Touquet, évidemment 81% des voix. Dans le Finistère, il l'emporte avec plus de 77% des voix. Dans les Pyrénées-Atlantiques, 74,8% des voix. Dans la Sarthe, de François Fillon, il est en tête avec 63% des voix dans la ville frontiste de Fréjus, dirigée par David Racheline. Là, c'est Marine Le Pen qui l'emporte tout juste avec 50,7% des voix. Vous l'avez entendu avec Philippe Rondet, Emmanuel Macron est en route pour l'esplanade du Louvre. Il s'est exprimé tout à l'heure avant de quitter son QG dans le 15e arrondissement. Il a donc donné son premier discours de président de la République, un discours grave et solennel. La voix était blanche pour promettre de protéger les Français, de moraliser la vie politique et de renouer les liens des Français avec l'Europe. L'Europe qui salue ce soir son élection, les Français sont restés fidèles à eux-mêmes, s'est réjoui tout à l'heure Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne sur France Inter. Londres, Berlin et Athènes ont félicité le nouveau président, échange téléphonique très chaleureux entre Emmanuel Macron et Angela Merkel. Pour Alexis Tsipras, Premier ministre grec, la victoire de Macron est une inspiration pour l'Europe. De la déclaration de Marine Le Pen, on retiendra ce soir cette volonté de réformer le Front National, ce qui n'a pas l'air de remporter l'adhésion de toutes les composantes du parti. Marion Maréchal Le Pen, par exemple, ne voit pas de quoi il s'agit et parle de déception ce soir quand Marine Le Pen salue son score historique et parle de 11 millions d'électeurs qui l'ont choisi aujourd'hui. Division à droite également ce soir entre ceux qui applaudissent la victoire d'Emmanuel Macron et qui annoncent déjà leur volonté de faire partie de la nouvelle majorité comme Bruno Le Maire, ex-candidat à la primaire LR, et ceux pour qui il n'en est pas question, François Baroin qui va mener la bataille des législatives et qui prévient déjà si Le Maire entre au gouvernement, il y aura un candidat LR face à lui aux législatives. Enfin, Jean-Luc Mélenchon appelle ses électeurs du premier tour à rester unis pour les législatives contre le nouveau monarque présidentiel. Ce sont ses mots.
France Inter, Nicolas Demorand.
22h11, merci d'être avec nous sur France Inter jusqu'à minuit pour suivre ensemble en direct cette grande soirée électorale. Je vous le disais il y a quelques instants, Éric Coquerel, le coordinateur du Parti de Gauche, est désormais à notre micro en studio. Arnaud Le Parmentier vous pose une première question.
Bonsoir Éric Coquerel, qu'est-ce que vous avez voté aujourd'hui ?
C'est pas ça. Je l'avais dit avant le vote. Je l'ai dit vendredi que je comptais sur personne d'autre que moi pour faire ce que j'estimais nécessaire, c'est-à-dire que Mme Le Pen soit battue dans les urnes. Mais j'ai pas envie de différencier ce vote de celui qui ont voté blanc, nul ou qui se sont abstenus et qui ce soir ont, je crois, fait en sorte que de répondre à l'appel qui était le nôtre, c'est-à-dire pas une voix pour le Front National, sans quoi M. Macron n'aurait pas été élu.
Donc vous ne voulez pas nous dire si vous avez fait comme les 52% de vos électeurs qui ont voté Emmanuel Macron.
Vous écoutez mal ce que je vous dis.
J'ai mal compris. Ouais, j'aime bien les réponses claires. J'ai voté blanc, je n'ai pas voté.
Oui, eh bien, je vous répète que j'ai une philosophie qui est de ne pas laisser à d'autres le soin de faire ce que j'estime nécessaire. Et j'estimais nécessaire que Mme Le Pen ait moins de bulletins que M. Macron. Donc voilà, je vous ai répondu.
Donc vous avez voté Macron,
Bruce. J'ai mis un bulletin.
Bruce de Galzin.
Première réforme d'Emmanuel Macron, ce sera la réforme du droit du travail. Vous lui aviez demandé de renoncer à cette réforme dans l'entre-deux-tours. Mais si l'on lit bien entre les lignes, la loi El Khomri a déjà tout fait. Ce que va proposer Emmanuel Macron, finalement, c'est une loi El Khomri renforcée, mais avec des critères déjà prévus. Aujourd'hui, la loi demande à ce que l'organisation et le temps du travail soient négociés au sein de l'entreprise. Mais dès 2019, la loi prévoyait que ce soit aussi les salaires. Donc Emmanuel Macron ne va pas beaucoup plus loin, finalement, que ce que prévoyait déjà la loi El Khomri.
Si, si, il va plus loin, il l'a déjà dit. Notamment, vous savez, le fameux maximum des, pour les prud'hommes qu'il va cette fois-ci supprimer. Il a dit qu'il allait également accroître la dérégulation du travail, qu'il allait entamer tout de suite une réforme des retraites. Et on voit que d'ailleurs, c'est une retraite par points auquel il pense. Donc monsieur Macron...
Sans baisser le montant des retraites ni changer l'âge.
Bah, ça, on verra. Ça, vous avez très confiance en lui, c'est bien.
Non, je répète ce qu'il a dit.
Non, non, exactement ce qu'il a dit, sans changer l'âge pour ceux qui allaient arriver en retraite dans les premières années. Mais après, il explique que chaque année, ça serait revu en fonction du point. Mais voilà, laissons là.
Une réforme qui
prendra
10 ans,
comme en réalité, il continue les vieilles recettes qui ont, un, plongé le pays et l'Europe dans la crise, deux, favorisé la montée de partis comme le Front National. Donc c'est la même chose qu'il va poursuivre, en pire, ce que je pense. Il a déjà été rassuré à Mme Merkel qu'il appliquerait la même politique, c'est-à-dire qu'elle peut être tranquille. Il y aura une Europe qui va continuer à se construire contre les peuples, au nom de l'austérité, de la politique de l'offre, de la finance, et y compris des intérêts plus particulièrement des possédants allemands. Donc nous, on est surpris de rien. On
n'a aucune vision. Quoi, vous votre recette, c'est quoi? C'est
à nous,
prendre
notre
le pouvoir
recette, c'est
par les urnes.
Non. Bien sûr, vous savez que c'est par les urnes. Nous l'avons toujours dit, une révolution citoyenne. Donc nous disons très clairement une chose ce soir. Madame Le Pen est battue, c'est une bonne chose, fallait que ça soit fait. Bon, le pire est évité. Il y a une deuxième chose maintenant, c'est que Monsieur Macron ne peut pas estimer aujourd'hui qu'il a une majorité politique. Chacun le constate. Il passe par, j'allais dire, les artifices de la Ve République qui fait que vous pouvez être majoritaire en ayant eu 24% au premier tour. Et dans cette élection-là, on est très loin, évidemment, de penser qu'il peut y avoir une majorité.
Plein d'opposants. Qui est le chef de l'opposition?
Attendez, laissez-moi continuer, Arnaud, pardon. Il y a donc un troisième tour au niveau des législatives. Et je crois que nous avons rassemblé une force considérable au niveau de France Insoumise avec Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Je pense que les gens qui ont écouté le débat entre Monsieur Macron et Madame Le Pen, beaucoup de gens qui ont hésité à voter ou pas voter Monsieur Mélenchon ont dû regretter de ne pas l'avoir vu s'affronter à Monsieur Macron. On aurait eu enfin un débat plus intéressant entre, je dirais, dégagés des questions liées au côté anti-républicain d'extrême droite de Madame Le Pen. Donc on aurait eu un vrai débat de fond sur quel devenir entre ceux qui prônent finalement la même politique qui sévit maintenant depuis des années, donc on va appeler ça néolibéralisme pour aller vite, et ceux qui, comme nous, pensons que la question est sur le partage des richesses, la coopération entre les peuples, enfin bon, je ne vous fais pas. Donc nous pensons que c'est les législatives qui vont régler ça, et je vous le dis ce soir, nous ambitionnons d'être à minima, de l'empêcher d'avoir une majorité pour commettre les méfaits, mais pourquoi pas d'être majoritaire.
C'est une union générale avec le Parti Socialiste, vous voulez?
Arnaud Lagarde.
Avec le Parti Socialiste.
Non, je vous demande, est-ce que vous voulez Benoît Hamon?
Où est le Parti Socialiste?
Je vous pose la question.
Non, mais dites-moi où est le Parti Socialiste, regardez, ça fait rire chez vous. Où est le Parti
Socialiste?
Non, pas du
tout, c'est pas ça.
Moi, je trouve ça très drôle, parce que le Parti Socialiste, je sais pas trop où il est ce soir.
Non, Benoît Hamon demande des candidatures d'union de la gauche. Est-ce que
vous parlez de Benoît Hamon? Monsieur Hamon, c'est le Parti Socialiste, ou c'est Monsieur Cambadélis, ou c'est d'autres gens dont j'entends que, déjà, comme Monsieur Valls, il pourrait être prêt finalement à rejoindre la nouvelle grande force que veut créer
Monsieur Macron. Vous allez sous vos couleurs.
Absolument.
À la bataille.
Nous invitons tous ceux qui veulent recomposer le paysage, transformer le pays, prendre une majorité au nom des valeurs qui sont les nôtres, à la fois sur la question sociale, de l'environnement, de la démocratie avec la 6e République, de faire en sorte que de rejoindre la démarche de France Insoumise, parce que nous pensons pouvoir être majoritaire dans ce pays législatif. Les législatives, c'est la première fois dans la 5e République. Ça va être un troisième tour et quelque part, en gros, une belle. C'est là où va se décider la majorité politique de ce pays. Voilà, on donne rendez-vous à tout le monde pour le mois de juin.
Excusez-moi, le Benoît Hamon a empêché Jean-Luc Mélenchon, on peut présenter ça comme ça, d'être qualifié au second tour de la présidentielle.
Oui. Pourquoi vous parlez de Benoît Hamon?
Parce qu'il était le candidat du Parti Socialiste.
Mais d'accord,
de quelle manière limitez-vous pour gagner une législative? Il faut d'abord franchir le seuil de 12,5% des inscrits, on l'a déjà dit plusieurs fois. Comment vous réduisez le nombre de candidatures à gauche pour passer en tête devant En Marche? Et de l'autre côté, les Républicains, et de l'autre côté, le Front National. Comment vous rassemblez à gauche ?
Il y a eu quatre grandes forces au premier tour qui se sont partagées 85% de l'électorat. Voilà. Nous savons que si nous remobilisons nos électeurs, plus à mon avis ceux qui maintenant pourraient tenter de voter pour nous, parce que à mon avis ils doivent regretter que M. Mélenchon n'ait pas été au deuxième tour. Je pense très sincèrement que dans les 67 circonscriptions, nous étions en tête. Les 167 circonscriptions, nous étions en deuxième. Les 75% de circonscriptions, nous avons plus de 12,5% des inscrits. Si on remobilise notre électorat, je vous annonce qu'on peut être majoritaire aux législatives prochaines. C'est mathématique et c'est politique.
Sur le versant économique, Bruce de Galzin, d'autres questions à Éric Coquerel, où on continue la politique avec Arnaud Le Parmentier.
C'est en tout cas intéressant, même d'un point de vue politique, d'essayer de voir ce soir que le Front de Gauche estime possible...
France Insoumise.
que France Insoumise estime possible d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on voit que le Parti socialiste, a priori, est décrépit et que France Insoumise, qui a certes a fait 19%, n'a pas réussi à mobiliser pour ce second tour. On ne sait pas exactement qui a voté qui.
En tout cas, vous savez que ça a contribué à faire battre Madame Le Pen dans tous les cas. Parce que Monsieur Macron n'aurait pas eu les opposants pour mettre un bulletin de vote Macron, ou en tout cas pour ne pas mettre un bulletin de vote Le Pen, ce soir il ne serait pas élu. C'est pas avec les 24% du premier tour, qui plus est dans ces 24%, je vous rappelle qu'il y a des gens qui ont déjà voté utile, parce qu'on leur serinait que si c'était pas Monsieur Macron, c'était courir un danger. Moi je considère que, quelque part, c'était le meilleur adversaire possible pour Mme Le Pen, et surtout Mme Le Pen était le meilleur adversaire possible pour Monsieur Macron, et je considère que si M. Mélenchon avait été au deuxième tour, il aurait battu les deux parce que nous aurions eu un vrai affrontement d'idées. Donc, il y a eu une dynamique. Il y a eu ce deuxième tour qui a compté. Les débats ont été continués. Monsieur Macron, à part son discours un peu marketing qui m'a fait penser à Hollande un peu ce soir, hein, très franchement. Bon. Mais sinon, il a expliqué que il allait appliquer son projet. Vous l'avez dit vous-même. C'est une loi travail aggravée, la réforme des retraites qui se prépare, le fait de baisser 60 milliards en termes de dépenses publiques.
Il y a tout un volet protection.
Donc, ça
va
continuer. Ça, les Français, il n'y a pas de majorité politique pour continuer ce chemin. S'il y avait une majorité politique, M. Hollande se serait présenté aux élections. M. Hollande aurait gagné les élections. Donc, il n'y a pas de majorité politique pour cela. C'est ce que nous pensons, nous. Et donc, au premier tour législatif, va recommencer finalement la continuité du premier tour des présidentielles. On voyait bien qu'il y avait quatre forces à peu près qui se tenaient dans les 7 millions de voix, entre 7 millions et 8 millions. Et je crois que dans les dynamiques qui est la nôtre, nous pouvons ambitionner de majorité. En tout cas, il y a une chose sûre, c'est que nous pouvons faire en sorte que M. Macron n'ait pas la majorité pour appliquer son programme.
Est-ce que vous comptez sur des manifestations, des mouvements sociaux pour appuyer la campagne législative, ou est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas besoin du soutien des syndicats ou de certaines grèves, je ne sais pas.
En sachant que dès demain matin...
Mais vous savez, les syndicats ne sont pas là.
Les
syndicats n'appuient pas un parti politique. Mais je pense qu'il va y avoir... Attendez, je vais vous répondre. Je pense qu'il va y avoir très rapidement des mobilisations à la fois sociales dès que les premières mesures seront annoncées, notamment, je vous le dis, cette réforme de retraite qui est une horreur absolue qui est héritée.
Est-ce que vous les voulez avant pour accompagner
la
campagne
législative ? Mais je n'ai pas à vouloir. Les syndicats, les salariés font ce qu'ils entendent. Mais dans les deux cas, je pense qu'effectivement, il va y avoir dès lundi une expression dans ce pays à la fois sociale et dans les urnes législatives. Rien n'est réglé. En réalité, rien n'est réglé. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que les raisons pour lesquelles, je le disais, M. Hollande n'a pas pu se représenter sont les mêmes pour lesquelles M. Macron ne pourra pas appliquer sa politique, ou du coup, aura toutes
Monsieur
les peines du
ne
monde
pas espérer
à avoir une majorité.
Un meilleur résultat, quand même, honnêtement, à part
ça, vous avez raison, c'est une entourloupe. Ça, c'est vrai.
C'est quand même extraordinaire. François Hollande arrive à nommer quelqu'un qui est le continuateur ou quelqu'un a été élu qui est le continuateur.
Il y a eu une élection.
Quelque part, le système s'était choisi, M. Juppé. Ça a déraillé du fait de la primaire avec l'histoire de Fillon. Il y a M. Macron sur lequel on s'est raccroché. Bon, et qui, quelque part, on nous préparait la même chose depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il fallait absolument que Mme Le Pen soit au deuxième tour pour faire en sorte que ce projet gagne.
Vous saluez l'exploit de M. Macron ? Vous trouvez que c'est absolument génial, de s'être fait élire.
Le coup d'arnaque financier, non.
Non, il n'y a pas d'arnaque financier, là.
Il y a ça. C'est-à-dire que je pense que du côté du système, il y a ce que j'appelle le système, c'est-à-dire en gros, la continuité de la même politique dont M. Macron est d'ailleurs un représentant pas seulement indirect, mais direct, c'est ce que je crois, il y a effectivement, on va dire qu'il y a un coup politicien qui doit absolument surprendre tout le monde. Mais enfin, moi, ce n'est pas la façon pour moi de voir la politique. La façon pour moi de voir la politique, c'est que des idées l'emportent sur d'autres. Et je considère ce soir, c'est ça qui est fondamental, que Mme Le Pen est battue, les idées de Mme Le Pen est battue, encore une fois, c'est une bonne chose, mais on ne peut pas dire que M. Macron est une majorité par rapport à ses idées, donc on donne rendez-vous aux législatives, où j'espère que la démocratie va pouvoir s'exprimer, j'allais dire, de manière plus pleine et entière, sans qu'on nous agite sans arrêt la crainte du Front National, c'est ce que j'espère.
Éric Coquerel, merci, coordinateur du parti de gauche, merci d'être passé en studio à France Inter, on vous laisse filer, il est 22h22, on attend toujours le discours d'Emmanuel Macron au Carrousel du Louvre. D'ici là, on retrouve Élodie Fauré. Vous y êtes, ma chère Élodie, et vous avez rencontré sympathisants et parisiens venus se réjouir de la victoire de Macron.
Oui, ils sont arrivés tôt, hein. On vous le disait tout à l'heure, vers 19h, ils ont franchi les portes. Et puis à 20h, sur le parvis, rappelez-vous ce décompte qui résonne. 5, 4, 3, 2. Alors à ce moment-là, les visages sont encore un peu fébriles et puis c'est l'explosion de joie. Ouais.
jeunesse. Ça va vraiment changer le visage de la France. Et il faut y croire. Ah, c'est trop cool.
J'ai vu que j'avais des gros doutes, mais 65%, ça me rappelle en fait que finalement, la prise de conscience, elle est collective.
65, c'est vraiment un score significatif. Je pense que les Français se sont rendus compte qu'il fallait penser à l'Europe pour vraiment s'ouvrir au monde.
Voilà, des jeunes Parisiens que vous entendez tellement heureux qu'ils soient passés à plus de 65%. Comme les autres supporters présents, ils attendent maintenant l'arrivée de leur champion, Emmanuel Macron, qui va prendre la parole d'ici quelques instants sur cette grande scène devant la pyramide du Louvre. Un discours qui sera peut-être un peu moins solennel que celui tenu au QG tout à l'heure.
Un peu plus, ce serait difficile. Merci Élodie Fauré. On file au bois de Vincennes du côté du QG de Marine Le Pen. Aurélien Colli, vous y êtes encore? On vous a pas mis dehors?
Non, pas encore, mais ça va pas tarder. Vous savez, on n'avait pas vu Marine Le Pen depuis sa prise de parole peu après 20h. Eh bien, elle vient de réapparaître. Elle est en train de danser avec une poignée de militants. On le voit sur un écran géant dans la salle de presse. Car depuis 22h, effectivement, les journalistes n'ont plus accès à la grande salle. Et c'est le moment que Marine Le Pen attendait visiblement pour venir voir ses invités, mais pas les journalistes. Journalistes auxquels ses lieutenants se sont chargés de répondre après les résultats pour tenter, un peu comme elle, dans son discours, de transformer la défaite en nouvel élan pour les législatives. Ici, ce soir, Marine Le Pen a gagné pour eux, car elle a progressé en nombre de voix, plus de 11 millions, c'est un score historique. Alors évidemment, il y a ceux qui sont bons joueurs derrière ce discours, ils admettent quand même une certaine déception, car Marine Le Pen est assez basse en pourcentage, sous les 35%, alors que beaucoup l'attendaient à 40%. Et puis il y a ceux qui sont un peu aigris aussi, par exemple Gilbert Collard, ou d'autres cadres qui nous annonçaient avec tant de certitude une Marine Le Pen victorieuse, ou du moins au moins à 45%. Pour eux, le retour à la réalité est un peu violent, et c'est plutôt service minimum avec la presse. À l'heure où je vous parle, il reste encore à peu près 300 personnes sur un millier d'invités. Beaucoup sont partis, beaucoup ne sont pas venus. Et puis un certain flou règne aussi sur la suite, car Marine Le Pen a appelé à une transformation profonde de son parti pour incarner l'opposition à Macron avec Debout la France, de Nicolas Dupont-Aignan, dans leur alliance républicaine et patriote. Sauf que Nicolas Dupont-Aignan insiste ce soir sur son indépendance. Ce serait donc plutôt une plateforme commune pour les législatives. Les cadres, les militants sont un peu dans le flou, un peu comme d'ailleurs Marion Maréchal Le Pen, qui le disait dans la soirée de son QG de Carpentras. Alors on ne sait pas si le FN va vraiment vers une transformation, comme le dit Marine Le Pen, ou plutôt vers des remous en interne, avec notamment contestation de la ligne Philippot, particulièrement anti-euro, par Marion Maréchal Le Pen. Tout ça, on le saura à partir de demain.
Aurélien Colli, en direct du QG de Marine Le Pen. On va faire avec vous, Bruce Galzin, et avec Luc Lemonnier, deux points. Un premier donc sur le programme économique du nouveau président de la République, Emmanuel Macron.
Alors Emmanuel Macron qui veut réformer rapidement par ordonnance, mais réforme rapide ne veut pas dire effet immédiat, au contraire, a priori, les effets seront sur la durée. On l'a évoqué tout à l'heure avec Éric Coquerel, la réforme du droit du travail, engagée très fortement par Maria El Khomri, secondée par Emmanuel Macron, pour être clair. Et en effet, au-delà de l'organisation du temps du travail, il veut que soit négocié au plus près du terrain, comme il dit, au cœur de l'entreprise, ou au moins dans la branche, désormais, les salaires également, les heures supplémentaires. Il veut que la réforme des prud'hommes, qui n'a pas pu être menée à terme lors du précédent quinquennat, eh bien, soit menée cette fois-ci assez rapidement. Réforme des prud'hommes, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que les dommages et intérêts soient plafonnés. C'est une demande récurrente du patronat qui permet de sécuriser, entre guillemets, l'embauche. En tout cas, c'est ce que disent les représentants patronaux. Ces réformes seront accompagnées très rapidement. Cette première réforme sera accompagnée très rapidement d'une réforme de l'assurance chômage. Et là, c'est très nouveau, parce que l'on change totalement de logiciel. Tout le monde sera désormais couvert par l'assurance chômage, l'indépendant, le chef d'entreprise, l'agriculteur et le salarié. Et s'il veut quitter son emploi au bout de 5 ans, touchera des indemnités. C'est très nouveau, mais il y a une contrepartie. La contrepartie, c'est ne pas refuser 2 offres raisonnables d'emploi. Cela existe aujourd'hui, mais le corps des contrôleurs de Pôle emploi n'existe pas aujourd'hui. Chez Pôle emploi, on fait un peu les deux, et c'est toujours très très délicat de faire les deux. Donc Emmanuel Macron s'engage et souhaite former plusieurs centaines de contrôleurs dont le travail sera de vérifier que l'offre est raisonnable ou n'est pas raisonnable et que le chômeur l'accepte ou pas. Cette réforme s'accompagne d'une troisième réforme, celle de la formation, et ça c'est assez fondamental. Et c'est le volet protection davantage du salarié, puisque Emmanuel Macron est un social libéral, clairement, protection du salarié en l'accompagnant. Et là, c'est sans doute assez délicat parce que les partenaires sociaux pourraient être, dessaisis, en tout cas, de ce qui est leur prérogative aujourd'hui. La formation professionnelle, dessaisie, ça veut dire que, sur un compte de formation, chaque salarié pourrait avoir désormais de l'argent, même des euros, non plus simplement des heures de formation, mais des euros pour aller se former, être accompagné. Et donc ça aussi, c'est un vrai bouleversement. On a évoqué, et j'essaie d'être rapide, la réforme des retraites. Alors la réforme des retraites, elle va prendre un temps fou, parce qu'on passe d'un système de retraite à points, la retraite pour tous, fini les régimes spéciaux. Certes, ça peut mettre du monde dans la rue, mais c'est une réforme qui va prendre énormément de temps. Il a déjà dit que sur le quinquennat, elle ne se verra pas, cette réforme. En Suède, c'est le modèle, en tout cas un des modèles d'Emmanuel Macron, en Suède, la réforme a pris 10 ans.
Bruce de Galzin, donc, pour quelques éléments sur le programme économique d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, on l'attend d'une minute à l'autre sur la grande scène du carrousel du Louvre. Cyril Graziani sera avec nous en direct et on pourra suivre ce discours en direct, sur France Inter. Dites-moi, Dominique Régnier, libéral-social, vous disiez, Bruce de Galzin, libéral-social.
Social-libéral.
Pardon ?
Social-libéral.
Social-libéral, pardon, c'est l'inverse.
C'est important.
C'est ça la ligne du parti, si j'ose dire ?
Chez La République En Marche, oui, c'est la ligne apparente, puisque c'est quand même sur ce style-là et cette rhétorique-là qu'Emmanuel Macron a construit sa trajectoire politique très récente, mais c'était très net. Souvenez-vous, même s'il a modifié après son discours, ses déclarations sur les 35 heures, sur la fiscalité, sur les entreprises, etc. Il a envoyé sur les fonctionnaires, absolument, vous avez raison, toute une série de signaux qui s'inscrivaient dans ce qu'on appelle le social-libéralisme, qui est au fond une école de pensée qui existe depuis assez longtemps, c'est pas pour en faire l'exposé maintenant, mais qui essaye de réconcilier les mécanismes du marché avec une ambition sociale. Il porte ça, et avec d'autant plus de netteté, je dirais, qu'il l'inscrit dans un propos très favorable à l'Europe. On peut noter le caractère exceptionnel de quelqu'un qui est élu président sur un discours pro-européen assez largement mis en scène. Il me semble que c'est la première fois qu'on a comme ça un président qui, à ce point-là, met en avant l'Europe.
Il était quasiment le seul de cette manière-là.
Sans aucun doute, absolument. Et donc, ça correspond à quelque chose qui, en France, était un peu confiné, je dirais, aux marges. Et le pari, c'est de faire de cette pensée, qui est une vraie pensée, et de cette sensibilité, une force capable de gouverner le pays. C'est là qu'il y a une vraie... Ça télescope complètement, indépendamment de ce qu'on peut éprouver soi-même par rapport à ce type de paradigme, ça télescope frontalement ce que l'on sait de la société française depuis quelques années, ce qu'elle est, son rapport au monde, à l'Europe et au monde économique.
Bruce de Galzin ?
C'est une rupture, c'est un changement ou c'est une continuité par rapport au mandat précédent ?
Dominique Régnier.
Je pense que c'est une continuation, en fait, et une espèce de radicalisation théorisation, radicalisation de ce que François Hollande n'a pas voulu faire de manière assumée en 2012 quand il est arrivé au pouvoir, ce qui correspondait profondément à son inclinaison, à ses origines politiques, à son parcours, que ce soit l'Europe ou le rapport au marché, aux réalités économiques. Il a fait campagne avant 2012 sur l'équilibre des finances. Et il ne l'a pas assumé, il ne l'a pas porté, il l'a à peine effleuré comme ça. Et au fond, Emmanuel Macron s'en est saisi pour le formaliser et en faire une doctrine.
La question de la flexi-sécurité, le modèle des pays du Nord, Philippe Aguillon était, qui est l'économiste très proche d'Emmanuel Macron et du Mouvement En Marche, était l'invité, souvenez-vous, Arnaud Le Parmentier, l'invité de France Inter dimanche il y a deux semaines, et n'a cessé, aux questions qu'on lui posait sur la France, de répondre la Suède, la Norvège. Ça n'est pas l'un des plus gros clichés des modèles économiques et sociaux dans le débat public français. La flexi-sécurité, on en entend parler depuis quoi ? 10, 15 ans, non ? Bruce de Galzin, Dominique Régnier.
Depuis 10-15 ans, sans doute, même plus. Sauf que moi, je suis d'accord avec ce que dit Dominique Régnier. Je pense que cela n'a été que décidé mollement et qu'on n'a absolument pas commencé, au contraire, à s'activer sur ces thèmes-là. Et d'ailleurs, ce qui m'étonne un petit peu, c'est que est-ce que c'est cette flexi-sécurité affirmé qui va permettre au pays d'évoluer, je n'en sais rien, mais en tout cas Emmanuel Macron sera sans doute bien plus réformateur que François Hollande. Et moi, la question qui m'interpelle, c'est est-ce que si c'était la droite, si c'était François Fillon qui était au pouvoir, est-ce que la droite aurait pu réformer et faire ce qu'elle proposait ? Est-ce que Emmanuel Macron, en France, n'a pas plus de chances de réussir, entre guillemets, avec ses réformes sans doute moins radicales, mais réellement social-libérales, que la radicalité d'un parti de droite ?
Dominique Régnier ?
Les réformes, les solutions aux problèmes, elles sont efficaces ou pas. On peut trouver de l'efficacité. C'est pour ça qu'on parle de la Suède et du Danemark, par exemple. Mais en réalité, ce qui permet de les conduire, c'est de la force politique et une force syndicale, en l'espèce. Et là, aujourd'hui, on cherche encore quels sont les éléments de force sur lesquels va pouvoir s'appuyer Emmanuel Macron, indépendamment d'ailleurs de sa majorité parlementaire éventuelle, pour mener de telles réformes à bien.
Cyril Gradiani, au Carrousel du Louvre, je vois sur mes écrans que ça commence à s'agiter et que Emmanuel Macron fait son entrée.
Exactement, il fait son entrée sous un air bien connu, l'hymne à la joie, l'hymne européen. Emmanuel Macron s'est avancé dans un coin de l'esplanade du Louvre. Une entrée théâtralisée, on va dire. Il marche doucement.
Oui, qui rappelle François Mitterrand au Panthéon, pour les plus vieux d'entre nous.
Exactement. Il est seul, là, pour le moment. Voilà, vous pouvez le voir sur les images, certainement, que vous avez aussi en studio.
Oui, il traverse Emmanuel seul Macron, cette immense esplanade de la pyramide. Oui, dans une mise en scène qui est assez étonnante, qu'on n'a pas vue depuis très longtemps.
Exactement, mise en scène, à mon avis, travaillée. Peut-être que vous entendez derrière moi l'hymne à la joie qui retentit. C'est voulu, puisque Emmanuel Macron s'est présenté comme le candidat de l'Europe, le seul candidat de l'Europe durant cette élection présidentielle. Emmanuel Macron, donc, qui continue à avancer, il est en marche, on peut le dire ce soir, vraiment. Ça vous aimez, Nicolas.
Ah oui, j'adore. C'est toujours simple, mais c'est toujours efficace. Surtout là, en ce moment. Mais enfin, ce sont des images qui resteront quand même, parce que c'est une manière de faire de la politique qu'on n'a pas vue depuis très très longtemps, ou en tout cas de faire de la télévision. Je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais là, en l'occurrence, les deux.
C'est une entrée en scène assez particulière. Pour le moment, il continue. Ça fait à peu près une bonne minute qu'il marche seul. Sur cette esplanade, il va ensuite monter sur la scène, haranguer la foule, profiter certainement de cet instant. Ça n'arrive pas tous les jours.
On l'entend, la foule, et on voit sur nos écrans de télévision la mention utile que ces images sont fournies par l'équipe du candidat Emmanuel Macron.
Comme de plus en plus, notamment
comme c'est le cas maintenant, de plus en plus pour les meetings où les différents candidats, les hommes, les femmes politiques se disent charité bien ordonnée, autant faire nous-mêmes les images sans passer par la télévision. Ce qui rappelle d'ailleurs que c'était Serge Moatti à l'époque qui avait filmé François Mitterrand au Panthéon, entrant dans le Panthéon seul avec un certain nombre de roses à la main. Serge Moatti, qui était le grand ordonnateur de la première image de François Mitterrand. Emmanuel Macron continue à marcher, toujours.
Oui, il a contourné les pyramides de verre de l'esplanade du Louvre. Il a fait quelques signes à la foule. Il continue là dans le noir. Il est derrière la scène, me semble-t-il. Il va monter donc dans quelques instants sur cette scène, entouré de gardes du corps. Peut-être le voyez-vous sur les images, évidemment. Ce moment où la sécurité est plus que renforcée. Emmanuel Macron, voilà, encore une fois, salue la foule.
C'est vrai que ce sont quand même des images absolument hallucinantes qu'on est en train de voir.
Oui, totalement, avec un décorum particulier. Avec un décorum assez bluffant, on va le dire, puisque la pyramide du Louvre, c'est quelque chose d'assez beau.
Ça a de la gueule, oui.
Oui, plutôt cette pyramide en plus totalement illuminée. Voilà, Emmanuel Macron monte les quelques marches qui le séparent de la Seine.
On commence à entendre la foule très fort.
Je vais vous laisser entendre effectivement
allez,
entendre
on
la
ce
foule
moment.
Quand Emmanuel Macron va monter sur la Seine. Voilà, il lève les bras en V, signe de victoire, il embrasse des personnes dans la foule.
Allez, on laisse vivre ce moment, Cyril. On l'écoute en direct. Voilà, Emmanuel Macron salue la foule au Louvre.
Il va prendre la parole dans quelques instants.
Levée de la victoire, les mains levées. Avec la pyramide du Louvre, pile derrière lui.
Merci mes amis! Merci à vous d'être là ce soir. Vous êtes des dizaines de milliers. Et je ne vois que quelques visages. Merci. Merci d'être là, de vous être battu avec courage et bienveillance pendant tant de mois. Parce que oui, ce soir, vous l'avez emporté. La France l'a emporté. Ce que nous avons fait depuis tant et tant de mois n'a ni précédent ni équivalent. Tout le monde nous disait que c'était impossible. Mais ils ne connaissaient pas la France. Merci de votre confiance. Merci du temps que vous avez donné. Merci de votre engagement à toutes et tous. Merci des risques pris par certains. Je les sais. Cette confiance, elle m'oblige. Et j'en suis désormais le dépositaire. Ne pas vous décevoir. Être à la hauteur de celle-ci. Et porter durant les 5 années qui viennent l'élan qui est le vôtre, l'élan que vous représentez. Je veux aussi ce soir avoir un mot pour les Français qui ont voté pour moi sans avoir nos idées. Vous vous êtes engagés, et je sais qu'il ne s'agit pas là d'un blanc-seing. Je veux avoir un mot pour les Français qui ont voté simplement pour défendre la République. Face à l'extrémisme, je sais nos désaccords, je les respecterai, mais je serai fidèle. À cet engagement pris, je protégerai la République. Et je veux enfin avoir un mot pour ceux qui ont voté aujourd'hui pour Madame Le Pen. Ne les sifflez pas. Ils ont exprimé aujourd'hui une colère, un désarroi, parfois des convictions. Je les respecte. Mais je ferai tout durant les 5 années qui viennent pour qu'il n'ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Ce soir, il n'y a que les Françaises et les Français, le peuple de France réunis. Et ce que vous représentez ce soir ici au Louvre, c'est une ferveur, un enthousiasme, c'est l'énergie du peuple de France. Et ce lieu dans lequel nous nous retrouvons dit cela. Il est parcouru par notre histoire, de l'Ancien Régime à la libération de Paris, de la Révolution française à l'audace de cette pyramide. C'est le lieu de tous les Français, de toutes les France, de toutes les Françaises. Ce lieu, c'est celui de la France que le monde regarde, car ce soir, c'est l'Europe, c'est le monde qui nous regarde. L'Europe et le monde attendent que nous défendions partout l'esprit des Lumières menacé dans tant d'endroits. Ils attendent que partout nous défendions les libertés, que nous protégions les opprimés. Ils attendent que nous portions une nouvelle espérance, un nouvel humanisme, celui d'un monde plus sûr, d'un monde de liberté défendue, d'un monde de croissance, de plus de justice, de plus d'écologie. Ils attendent que nous soyons enfin nous. La tâche qui nous attend, mes chers concitoyens, est immense et elle commencera dès demain. Elle imposera de moraliser la vie publique, de défendre notre vitalité démocratique, de renforcer notre économie, de construire les nouvelles protections de ce monde qui nous entoure, de donner une place à chacun par l'école et le travail et la culture, de refonder notre Europe et d'assurer la sécurité de tous les Français. Cette tâche qui nous attend est immense et elle imposera de continuer à être audacieux. Oui, ce soir, nous avons gagné un droit qui nous oblige. Vous avez choisi l'audace et cette audace, nous la poursuivrons. Et chaque jour qui vient, nous continuerons à la porter parce que c'est ce que les Françaises et les Français attendent, parce que c'est ce que l'Europe et le monde attendent de nous. Ils attendent qu'à nouveau, la France les étonne, que la France soit elle-même, et c'est cela ce que nous ferons. Notre tâche est immense, mes amis, et elle exigera l'engagement de chacun, l'engagement de nos armées, de nos forces de l'ordre, de tous nos services publics, votre engagement, chacune et chacun, élus, associations, dirigeants, syndicats, salariés, fonctionnaires, commerçants, artisans, agriculteurs, étudiants, retraités. Notre tâche est immense et elle imposera l'exigence de la vérité, le courage de la vérité, celui que durant cette campagne nous avons constamment porté et que je continuerai de porter pour vous. Notre tâche est immense et elle imposera de construire dès demain une majorité vraie, une majorité forte. Cette majorité de changement, c'est ce à quoi le pays aspire et c'est ce qu'il mérite. Cette majorité de changement, c'est cela ce que j'attends de vous dans 6 semaines, car j'aurai encore et encore besoin de vous. mes chers concitoyens, vous toutes et tous qui êtes là à mes côtés depuis tant et tant de jours, tant et tant de nuits, peuple de France, ici rassemblé au Louvre, nous avons la force, nous avons l'énergie, nous avons la volonté, celle qui nous a portés, qui a fait ce que nous sommes. C'est cela ce qui conduira notre avenir. Nous ne céderons rien à la peur. Nous ne céderons rien à la division. Nous ne céderons rien aux mensonges. Nous ne céderons même rien à l'ironie, à l'entre-soi, à l'amour du déclin ou de la défaite. Je sais cette ferveur que vous portez. Je sais ce que je vous dois. Et je sais ce soir ce que je dois à mes compagnons de route, à mes amis, à ma famille et à mes proches. Ce ne sera pas tous les jours facile, je le sais. La tâche sera dure. Je vous dirai à chaque fois la vérité. Mais votre ferveur, votre énergie, votre courage, toujours, me porteront. Je vous protégerai face aux menaces. Je combattrai pour vous contre le mensonge, l'immobilisme, l'inefficacité, pour améliorer la vie de chacun. Je respecterai chacune et chacun dans ce qu'il pense et dans ce qu'il défend. Je rassemblerai et je réconcilierai, car je veux l'unité de notre peuple et de notre pays. Et enfin, mes amis, je vous servirai avec humilité, avec force. Je vous servirai au nom de notre devise, liberté, égalité, fraternité. Je vous servirai dans la fidélité de la confiance que vous m'avez donnée. Je vous servirai avec amour. Vive la République ! Vive la France !
Voilà donc le discours d'Emmanuel Macron sur scène au Carrousel du Louvre. Discours d'une bonne dizaine de minutes, peut-être même un peu plus. Une entrée qu'on commentait tout à l'heure avec Cyril Graziani, une entrée pleine de pompe, on va le dire comme ça. Emmanuel Macron qui est avec son épouse en train de saluer la foule du carrousel du Louvre. Nous sommes en studio avec Gérard Collomb, bonsoir.
Bonsoir.
Maire PS de Lyon, soutien d'Emmanuel Macron depuis le début, hein, on peut dire que
depuis le début.
Depuis le début, voilà.
Depuis un an.
Vous, bah oui, c'est ça. Ça ne fait qu'un an.
Ça ne fait qu'un an.
Vous êtes toujours au PS ?
Mais du calme là, du calme, Arnaud Le Parmentier. Yannick Jadot, eurodéputé écologiste, ancien soutien de Benoît Hamon. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Luc Châtel, député Les Républicains de Haute-Marne. Vous avez annoncé que vous voteriez pour Emmanuel Macron juste après le premier tour. Qui veut commenter d'un mot ce que nous venons de voir à la télévision, Gérard Collomb, pour commencer? Comme ça, on a la ligne du parti et puis ensuite les dissidents.
Il n'y a plus de parti. C'est cela la nouveauté. C'est-à-dire que les partis traditionnels étaient figés, chacun dans leurs convictions, enfermés dans leur monde. Et donc, ce que nous avons essayé de faire avec Emmanuel Macron, c'était de s'ouvrir. De s'ouvrir aux réalités de la France. Et on l'a vu, ces réalités sont différentes, suivant les régions, suivant les populations. Il a commencé par lancer la Grande Marche pour écouter d'abord le peuple de France. Il a ensuite mûri son projet. Et on voit que ce soir, il est plein de gravité parce que il a conscience des responsabilités qui sont désormais les siennes. Le quinquennat doit permettre à notre pays de réussir, de repartir de l'avant et de faire en sorte que ceux qui doutent puissent demain retrouver une confiance.
Yannick Jadot.
Je n'aurais pas totalement la même analyse. C'est incontestablement une victoire et un incroyable chemin que Emmanuel Macron a parcouru pendant cette année. C'est un jeune président de la République, c'est une bonne nouvelle pour la France. Mais attention, il fait 65%, ça veut dire que Marine Le Pen fait 35%. C'est le double du score en voix de Jean-Marie Le Pen depuis 2002. Donc, cette France exaspérée, en colère, ou parfois, évidemment, xénophobe et raciste, elle est bien là, très présente dans cette élection. Deuxièmement, c'est 65%, mais ça va être le président le plus mal élu de la Ve République. Quand on regarde toutes les enquêtes d'opinion, au premier tour, il y avait à peu près, au maximum, 60% d'adhésion sur 23%. Donc le vote utile lui a permis d'être au second tour et le vote de barrage au Front National lui permet cette victoire. Et je n'ai pas entendu un seul mot pour remercier celles et ceux qui ont voté pour lui et qui pourtant ne partagent pas son programme, qui sont l'immense majorité des 65% qu'il a recueillis ce soir. Et j'ai trouvé dans son allocution très peu d'humilité pourtant qu'il essaye de prononcer, avec ces images d'un homme seul, avec la pyramide dans le dos, filmé par le bas.
Le pharaon.
Je trouve qu'on est quand même très loin du renouvellement de la politique qu'il prétend défendre.
Gérard Collomb, vous trouvez?
Arnaud, s'il vous plaît. Luc Châtel. D'abord, chacun a la parole.
Je l'ai plus.
Mais oui, je sais. Et c'est un drame. Luc Châtel.
Moi, je suis un peu partagé entre, d'un côté, ce que vient d'écrire Yannick Jadot, c'est-à-dire une victoire incontestable. J'allais dire chapeau l'artiste. Macron était inconnu des Français il y a 2 ans. Les Français ont élu un président qui a moins de 39 ans, qui a gagné sans parti, qui a exclu du deuxième tour les deux principaux partis de gouvernement. C'est un événement, c'est un séisme politique, comme on en connaît tous les 50 ans. Maintenant, il faut pas se tromper, le plus dur commence. Le plus dur, bien sûr, on peut croire que c'était de se faire élire dans les conditions que je viens de décrire, mais en fait, non. Le plus dur, c'est ce qui vient. Et c'est quoi ce qui vient? C'est un pays totalement fracturé. 45% des Français ont voté pour les extrêmes. On a un taux d'abstention record depuis 40 ans. On a 4 millions de votes blancs et nuls, c'est-à-dire le double de la dernière élection présidentielle. C'est ça le contexte du pays. Et les images que je vois ce soir sont assez troublantes, parce que au moment où on a envie d'un président qui démarre à fond, je sais pas s'il y a plus de parti, cher Gérard Collomb, mais en tout cas, il y a un chef du parti, hein, il y a un culte du chef, manifestement. Donc nous, on a besoin, si vous voulez, dans les perspectives qui viennent, c'est les élections législatives, d'un débat, d'une force d'entraînement, de savoir où on va. C'est ça le sujet.
Arnaud Leparmentier n'a pas eu la parole depuis un quart d'heure.
Non, c'était juste la question à Gérard Collomb. Est-ce que, quand même, il n'y a pas un risque de dérive solitaire du pouvoir quand on a un homme qui réussit cet exploit extraordinaire? Personne ne l'a fait jamais avant lui. Être élu à 39 ans au suffrage universel en France, même Louis-Napoléon Bonaparte n'avait pas réussi. Et on le voit là, tout seul, qui arrive, même pas entouré avec son équipe devant cette pyramide. Est-ce que c'est une erreur de casting ou comment Emmanuel Macron va-t-il s'ouvrir dans les jours qui viennent?
Gérard Collomb.
Elle est étonnante,
l'image. Gérard Collomb, tout de même.
S'il était arrivé avec l'ensemble de son équipe, c'était finalement un clan qui se présentait aux Français. Ce qu'il veut montrer, je crois, par cette image, c'est qu'il rassemblera demain tous les Français. Et contrairement à ce que vous dites, il sait fondamentalement que pour réussir, il a besoin de dépasser ceux avec qui il a travaillé dès le départ. Il nous le disait tout à l'heure. Il disait, mes amis, je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Mais vous comprenez qu'aujourd'hui, d'une certaine façon, je ne vous appartiens plus, mais j'appartiens aux Français. Notre pays, comme vous venez de le dire, est fracturé, divisé. Et donc, si ce quinquennat échouait demain, ce serait effectivement l'extrême droite qui arriverait au pouvoir. Il a de cela une conscience profonde. Et lorsqu'il vient de dire « Je m'adresse aussi à un certain nombre d'électeurs de Mme Le Pen », il sait que parmi les gens qui ont voté pour Mme Le Pen, il y a des gens qui sont en profonde détresse, qui ne croient plus dans l'avenir de la France, qui ne croient plus dans l'espérance républicaine. Et il veut redonner cette confiance dans l'avenir. C'est cela effectivement son projet pour la
Yannick
France.
Yannick Jadot.
Oui, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir si Emmanuel Macron, encore une fois on l'a dit, finalement l'adhésion à son projet est très faible dans cette élection. Donc est-ce que il en tient compte ou pas, ou est-ce qu'il fait comme Jacques Chirac au soir de l'élection en 2002, de la même façon il remercie tout le monde, il dit qu'il va rassembler et après il part sur son seul programme qui a participé aussi de remettre le Front National sur le chemin de la progression. Donc moi j'entends bien que Emmanuel Macron est contre le Front National et j'en suis absolument convaincu. Mais à un moment donné, il y a le Front National, l'ennemi politique qu'on combat, celui qui est raciste, xénophobe et tout ça, et il y a une partie de son électorat où l'ennemi n'est plus le Front National, mais la désespérance sociale, le déni de réalité sur l'environnement, sur les institutions ou sur l'Europe. Et moi, j'aimerais entendre un Emmanuel Macron qui dit... Il va pas le dire le jour de son élection, j'ai été mal élu, ou la plupart des gens qui ont voté pour moi ont d'abord voté pour battre Marine Le Pen. Mais qu'il entende quand même que tous ceux qui ont voté pour lui portent des idées différentes. Et moi, je suis très inquiet si demain, Emmanuel Macron, au lieu de changer les institutions qui ont montré leur totale faillite dans cette élection, il commence à gouverner par ordonnance sans même savoir s'il a une majorité à l'Assemblée. C'est ça le sujet.
Quelques mots, Gérard Collomb, avant le journal.
Juste un dernier point. Oui, un dernier point. Peut-être que finalement, avec cette élection absolument extraordinaire, on va pouvoir redonner de la place au Parlement, à l'Assemblée nationale, et ça, on en a terriblement besoin. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que les législatives seront une élection extrêmement importante.
Gérard Collomb, un dernier mot, le journal tout de suite.
Ce qu'il veut, s'il dit « je vais gouverner dans les premiers mois par ordonnance », c'est qu'il sait que la situation de la France est grave et qu'il faut aller vite pour changer d'un point de vue économique, pour changer d'un point de vue social, pour changer d'un point de vue écologique. Ensuite, il ouvrira. Et je vous rappelle que dans son programme, par exemple, il dit
« Parce que vous
je diminuerai le nombre de députés,
vous considérez qu'il
je changerai les institutions et je mettrai une dose de proportionnelle de manière à ce que tout le monde puisse être représenté, à ce que la France entière, dans sa diversité, puisse être présenté.
Merci à tous les deux. Gérard Collomb, maire PS de Lyon, soutien d'Emmanuel Macron. Yannick Jadot, eurodéputé écologiste, merci. Ancien soutien de Benoît Hamon. Et merci également à Luc Châtel qui était au micro de France Inter. Il est 23h.